Mes seigneurs.
Il dit mes seigneurs.
Vous êtes logé sur deux, hein.
Mais oui, mais quand ils étaient trois.
Il y en a un qui est parti. Et c'est pour ça qu'on dit, ben, c'est Yahvé qui est parti, c'est le Seigneur qui est parti, mon livre.
Ah oui, mais il en avait trois, mais monseigneur, il s'adressait au
plus important. C'est encore une des énigmes.
La théologie de l'autre était moins poussée que celle-là.
Pardon, vous ?
La théologie de l'autre était moins poussée que celle-là.
Que ça. Il n'y avait que deux personnes dans la Trinité. Puis au matin, vous reprendrez votre route. Mais il répondit non. Nous passerons la nuit sur la place. Ça, c'est pas possible. Passer la nuit sur la place d'une ville, vous vous rendez compte. Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison.
Reste avec nous, car il se fait tard.
Oui. Il les pressa tant qu'ils allèrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, ils mangèrent. Et vous voyez, c'est le texte répète, mais avec des variantes bien sûr, l'histoire de Mambré. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Là, voilà une exagération manifeste. Ils appelèrent Lot et lui dirent : Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les pour que nous en abusions. Ah, nous commençons à connaître le péché de Sodome. L'homosexualité. Voilà. Et c'est justement, le texte veut montrer que l'homosexualité est vraiment une aberration. Au lieu d'aimer l'autre comme autre et de recevoir l'autre comme différent de soi, on aime dans l'autre ce qui est le même. Et donc on se ferme sur lui-même. Hein, et donc il montre que l'homosexualité est vraiment aberrante. Ça ne fait pas partie de l'ajustement de la société. C'est pas normal, hein, nous disons aujourd'hui, bon, toutes les situations sont normales. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal dans cette situation du même qui se ferme sur le même. Pardon ?
Il ne peut pas donner la vie.
Non, justement. Mais non seulement il ne peut pas donner la vie, mais il reste enfermé en lui-même. L'autre étant sa propre image.
En lisant ce texte, moi je pensais à l'histoire plus loin sous Josué, où deux éclaireurs vont chez la prostituée et où les autres les cherchent aussi. Et ils sont sur la maison et sur les remparts.
Oui, on les a cachés. Oui.
Mais là, il ne s'agissait pas
il ne s'agissait pas de vouloir en abuser, là, il ne s'agissait pas d'homosexualité.
De se méfier des éclaireurs.
Tout à fait. Moi, il fait des éclaireurs, hein. Lot sortit vers eux, à l'entrée. Ayant fermé la porte derrière lui, il dit : Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. Bien sûr, hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose de scandaleux. Mais voyez, pour lui, pour la réflexion de celui qui a écrit, ça c'est normal. De s'unir à une femme, ça c'est normal. Mais pour un homme, de s'unir à un homme, ça ne va pas. Ça c'est tout à fait aberrant. C'est en dehors du plan de Dieu. Donc j'ai deux filles, encore vierges, je voulais vous les amener, faites bon ce.
Elles étaient certainement sexuellement adultes alors, ces deux filles.
Mais pour ces hommes, ne leur faites rien puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de moi. Et donc, l'importance aussi de l'hospitalité. Je suis responsable aussi de ces hommes qui sont venus. Mais ils répondirent : Ôte-toi de là ! En voilà un qui est venu en étranger et qui fait le juge. Où est le jugement ? Oui, l'étranger qui fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils le pressèrent fort, lui, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais les hommes sortirent le bras, firent rentrer Lot, on va voir, c'est abîmé, hein. Sortirent le bras, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et refermèrent la porte. Comme s'ils ne pouvaient pas casser la porte. Mais enfin, quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de berlues,
du plus petit jusqu'au plus grand, et il n'arrivait plus à trouver l'ouverture. C'est cousu de fil blanc, ce machin-là, hein. Mais, c'est vraiment du dessin animé, vous voyez.
Et quand on pense qu'on a gobé ça à la lettre à certaines époques.
Oui, il n'y a pas moyen de gober ça à la lettre, en fait. Pas moyen. Mais donc, il veut nous raconter quelque chose d'important à travers cela. Il veut nous dire d'abord les bienfaits de l'hospitalité, comment l'hospitalité est vraiment une solidarité, ça se montre très bien dans le texte. Et donc, il est responsable des gens qu'il a acceptés sous son toit.
Et je sens responsable, et sodomite aussi, il les appelle mes frères.
Il les appelle mes frères.
Alors qu'il est étranger.
Il est juste. Il est étranger et il est juste, soi-disant, entre guillemets, hein, d'après ce que le marchandage d'Abraham, parmi les pécheurs. Ils sont tous là, hein. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils sont tous homosexuels. Les hommes disent alors, c'est pas fini. As-tu encore quelqu'un ici? Des fils. Le texte dit ton gendre, mais il semble que ça soit ajouté. Tes fils, tes filles. Est-ce qu'il s'agit de fils? On n'en a pas parlé. Puis est-ce qu'il s'agit des gendres? C'est possible. Mais s'ils sont encore vierges, on ne sait pas. Hein? C'est pas clair. Tous les tiens qui sont dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Ah, c'est là qu'il fallait arriver. Nous allons en effet détruire ce lieu. Nous allons. Car grand est le cri qui s'est élevé contre eux à la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour les exterminer. Ah, maintenant, on sait de quoi il s'agit. Voilà pourquoi ils sont allés jusqu'à Sodome. Lot alla parler à ses futurs gendres, ah, ici ce sont les futurs gendres, qui devaient épouser ses filles. Debout, dit-il, quittez ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. Mais ses futurs gendres crurent qu'il plaisantait. Voilà en ce qui arrive. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là, de peur d'être enveloppées dans le châtiment de la ville. Et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, pour la pitié que le Seigneur avait de lui. Lui, la pitié, Abraham, non. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Donc, et comme il hésitait, les hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, pour la pitié que le Seigneur avait de lui. Pour la pitié que le Seigneur... Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la vie.
Et les gens n'en accompagnent pas.
Ah, on voit que non. Ils ont plaisanté, hein. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas cru. Comme il le menait dehors, il dit, sauve-toi, sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne pour n'être pas emporté. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Jésus dira qu'il ne faut pas s'arrêter quand on est en mission. Sauve-toi à la montagne pour n'être pas emporté. Et ça revient encore dans le chapitre 24 de saint Matthieu, là, hein, au moment du discours sur, on dit souvent la fin des temps, et sur la venue du Fils de l'homme. Lot leur répondit, non, je t'en prie, mon Seigneur. Il, au pluriel, est de nouveau mon Seigneur au singulier. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as montré une grande miséricorde à mon égard en m'assurant la vie. Mais moi, je ne puis pas me sauver à la montagne sans que m'atteigne le malheur et que je meure. Ah, tu as fait une bonne action, mais moi je ne peux pas aller jusque-là. Voilà cette ville assez proche pour y fuir et elle est peu de choses. Il y a une petite ville d'homme. Permet que je m'y sauve, est-ce qu'elle n'est pas peu de choses et que je vive? Il lui répondit, je te fais encore cette grâce de ne pas renverser la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas
car je ne puis rien faire avant qu'une pluie soit arrivée. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Tsoar. Tsoar, qu'on a rattaché de façon plus ou moins claire à la racine Mitzar, en hébreu, qui veut dire être peu de choses, pas rien du tout, Mitzar. Mais ça, c'est une explication qui vient par après. Au moment que le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Tsoar, le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu venant du Seigneur. Et il renversa ces villes et toute la plaine, avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. C'est une sorte d'explication du fait que le terrain soit tout à fait désert et soit rempli par le sel. Or, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une colonne de sel. On la montre encore, il y en a plusieurs d'ailleurs dans les environs de la mer Morte. Hein? Il y en a qui sont plus proches de la mer Morte, c'est celle-là qu'on montre, c'est celle pour touristes. Il y en a une autre là.
Quel voyeurisme
à l'intérieur. Ah, c'est comme ça. Levé de bon matin, levé de bon matin. Quand on se lève de bon matin, c'est qu'il y a un salut qui est en route. Il se leva de bon matin. C'est-à-dire, il sortit l'épaule de la couverture. C'est exactement ça. Rayashkem, Shekem, c'est l'épaule, c'est sortir l'épaule, se lever de bon matin. Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorre, sur toute la plaine. Et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. Et encore la fournaise qui revient, hein. Vous rappelez la fournaise qui était passée entre les animaux coupés là.
C'est comme la fumée qui monte de Babylone.
Exactement. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe dans le renversement des villes où habitait Lot. Voilà comment Dieu s'en est tiré. Il les a quand même sauvés.
Vous trouvez où est la femme de Lot?
Ben voilà! Voilà, elle a regardé en arrière.
Le pauvre Lot n'a plus sa femme.
Ah, ça c'est grave. Ça va justement poser un problème.
Il a de quoi?
Comment est-ce qu'il va faire? Il n'a plus sa femme, il n'a plus ses gens. Et ça va pas. Ah, vous en faites pas, ça va revenir après ça.
Ben, les gens ne méritaient pas, mais sa femme.
Les gens, mais sa femme, oui, mais elle a regardé en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière est parti pour être mon disciple. Qu'est-ce que ça veut dire regarder en arrière?
C'est aux femmes qui vous posaient la question. C'est dans le texte.
Certains l'ont pris comme étant un signe de curiosité. C'est pas. Ce sont des légendes que vous retrouvez partout, cela. Vous avez cela en Crète, vous avez cela en Turquie, vous avez cela en Grèce, vous avez cela en Mésopotamie. Vous avez, par exemple, un rocher qui ressemble un petit peu à une personne humaine. Par exemple, en Crète, c'est un très bel endroit. Vous avez, on dirait presque de loin, on dirait un berger. Et puis tout autour, vous avez des petits rochers, comme des moutons. Et on vous raconte l'histoire que c'est une vieille femme qui s'était présentée à ce berger, qui avait encore un croûton de pain dans sa besace, et pour lui demander à manger. Et comme il n'a pas voulu lui donner le bouton de pain, il est devenu de la pierre avec ses moutons. Ah, il n'en pouvait rien, les moutons, vous direz, mais enfin voilà. Il y a toujours ces images de l'homme qui ne fait pas ce qu'il faut, ou de l'homme ou de la femme qui ne fait pas, qui ne font pas ce qu'il faut faire, qui ne sont pas à la hauteur de la situation, et qui sont en quelque sorte arrêtés sur place. Tu veux aller en arrière, mais tu arrêtes, tu arrêtes le mouvement. Tu bloques. Vous voyez, c'est l'image de la femme ou de l'homme qui cale, comme nous disons. Il cale. Il s'arrête. Il n'avance plus.
Et il regarde en arrière. Il va dans un sens et il regarde en arrière. C'est vraiment le paradoxe. Ne pas savoir ce qu'il faut faire. Ou bloquer le mouvement. Que ce soit un mouvement de fuite ou un mouvement de marcher en avant. Donc elle pourrait se sauver si elle voulait. Nous avons la responsabilité de notre conduite. On te dit de ne pas regarder en arrière, ne regarde pas en arrière. Pourquoi regardes-tu en arrière? Il faut demander aux femmes.
C'est comme les Hébreux qui voulaient faire demi-tour vers les marmites d'Égypte.
Exactement, ils veulent retourner en arrière. Ils calent, ils bloquent. Pourquoi bloquer? Alors, la question qui se pose, évidemment, pourquoi bloquons-nous? Pourquoi devenons-nous des statues de sel? Vous savez, le sel, c'est quand même pas mauvais, hein? Ça conserve. Et ça donne du goût. Pardon?
Le Christ parle de
ça. Ben oui. Ayez du sel en vous-même. Mmh. Oui, mais le sel, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Jésus le dit lui-même, c'est une bonne chose que le sel.
À condition qu'il salve encore.
Ah, mais si le sel s'affadit, avec quoi le salvera? Et c'est du sel de la terre, ceci. Hein. C'est la terre qui est salée. C'est pas du sel marin. C'est le sel gemme, exactement. Qui est considéré en tout cas comme étant plus fort en teneur de sel, plus fort que le sel de la mer, le sel marin. Étrange cette affaire-là. C'est un rôle de texte. Donc, on vous dit la vie, on dit que la vie viendra, et ce sont des envoyés de Dieu, c'est Dieu lui-même, on ne sait pas trop. Ils sont reçus, hospitalité, et hospitalité d'Abraham, hospitalité de Lot. Cette règle semble absolument essentielle. Hospitalité donnée à Dieu. Hospitalité donnée à Dieu qui est la vie. Et effectivement, la vie va venir dans le sein de Sarah. Et puis, Dieu qui veut détruire le mal, qui veut détruire la société qui est mauvaise. Ah, il avait dit, je ne détruirai plus la terre, hein.
Mais
c'est pas la terre,
si...
c'est Sodome, Gomorre.
C'est comme si en balance, il y avait une vie nouvelle dans le sein de Sarah et des milliers de morts à côté. Or, Abraham n'a pas osé marchander jusqu'à un. Et ça se trouve en inclusion entre les...
Absolument. Et qu'est-ce que tu dis de là?
Ben, qu'Abraham aurait dû aller plus loin.
Qu'Abraham devait aller plus loin, jusqu'au bout. Il n'a pas encore découvert la capacité de pardon de Dieu. Est-ce qu'il y a un juste? Tu ne vas pas mêler le juste avec le pécheur? Et Dieu quand même tire de cette société mauvaise en quelque sorte, toute mauvaise depuis le début jusqu'à la fin, ils sont tous... sont tous des homosexuels.
Dans le récit, Lot symbolise le juste quand même.
Il symbolise le juste.
Donc il est figure de Jésus à venir. Oui. Pour nous en lecture chrétienne.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, Abraham devient solidaire. Abraham et sa descendance, puisque on vient justement de lui annoncer une naissance, sont solidaires de l'humanité entière. Et Abraham et sa descendance, le petit Isaac, deviennent aussi figure de Jésus. Du juste. Auquel Dieu donne sa... confie son secret, son projet, et en même temps qui intercède. Mais il ne va pas jusqu'au bout. Il n'est que figure, mais figure incomplète. Il ne va pas jusqu'au bout de l'intercession.
Ce n'est pas gênant qu'il y ait plus de 10 justes, puisqu'ils sont tous homosexuels. Toute la Bible est arrivée à la porte.
L'histoire est racontée comme ça.
C'est embêtant.
C'est embêtant.
Il ne tient même pas.
Il n'y a même pas.
Il ne tient pas sa parole. Oui, il ne tient pas sa parole.
Qui, Dieu?
Oui.
Ben, si, il prend le juste.
Ah,
c'est,
oui. Il aurait pu.
Il les sauve autrement.
S'il y en avait eu moins de 10, il aurait pu.
Oui, ils les sont vraiment, parce qu'ils sont tous contre eux, et donc ils devraient périr. périr par la main de tous ceux qui finalement hein, leur en veulent.
Mais si tous sont homosexuels, on les prend au mot, il n'y a plus de descendance possible non plus. Ah. Donc la ville se détruit d'elle-même.
Ah. Ah. Elle a en elle-même sa propre source de destruction. Et nous retrouvons quelque chose de Babel. Si vous voulez l'uniformité, ils sont tous homosexuels. Il n'y a pas d'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, dès que vous tournez autour de vous-même et que vous ne voyez plus que vous-même, vous êtes un objet de destruction dans le monde. Et regardez en arrière, c'est en quelque sorte vouloir quand même se sauver par un retour sur soi-même, un retour sur cette homosexualité, retour au même. Mais c'est vrai que la source de la destruction, elle n'est pas, c'est pas Dieu qui se venge de Sodome, mais c'est le cri de Sodome qui atteint son paroxysme et qui se détruit lui-même. Et c'est bien ça qu'il y a là derrière.
Oui. Il y a cet Allemand là, Werner Keller.
Werner Keller, oui.
Il a arraché au sable.
Oui.
Eh bien, il n'est pas matérialiste, mais il dit, voilà...
Il est concordiste, il n'est pas matérialiste.
Non, non.
Très différent.
Oui, exactement. Alors, il dit, il y a une certaine lecture de la Bible qui est possible, elle a produit son fruit, et il avance des preuves, alors qu'il y a d'autres livres qui sont ridicules et volumineux, là. Mais lui, son livre, en peu de pages, c'est vraiment formidable, ce qu'il dit. Il parle de la grande faille, grande cassure, et qui a l'importance pour les débuts de l'humanité, l'homme debout, etc. De toute façon, l'Australopithèque, là. Alors, il dit, voilà, depuis le lac Tanganyika, il y a le Kilimandjaro, là où il y avait les plus grandes failles, est sortie d'ailleurs la plus haute montagne de l'Afrique. Et puis, il remonte le haut Nil, il arrive à la cassure du Negev, où il parle d'ailleurs des mines de Salomon et du procédé, Besmerata, etc., inventé par Salomon. Et puis, il arrive à la mer Morte. Il dit, voilà, actuellement, si ça continue, la mer Morte sera divisée en deux, surtout si on utilise l'eau tout le temps, de chaque côté, là, Arabie, Israël, eh bien, ce sera la preuve qu'il y a eu un volcan naissant au plus grand creux. Actuellement, il y a encore presque 400 mètres en dessous du niveau de la mer, de sorte qu'un avion israélien qui survole la mer Morte vole bien plus bas qu'un sous-marin italien.
Ça c'est très juste. Où veux-tu en arriver maintenant?
Il y a même le professeur Capin qui a écrit un livre fort intéressant aussi sur les déluges, hein, et qui justement qui est un géologue et qui étudie justement toutes ces cassures, etc. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec ça.
Non. Seulement, il y a encore ceci, et ça a été prouvé malgré tout, dans des événements, et puis voilà, le volcan s'est arrêté, la mer Morte a commencé à bouillir comme une marmite, et alors, il a quand même jeté en l'air de soufre, de la lave,
de la lave,
et il dit que la végétation du sol qui est détruite, elle est détruite par le pétrole. Et alors, l'eau a remonté, il fallait bien que l'eau aille quelque part, elle a recouvert sur la Pégomore, et en 51, donc, il y a eu cette théorie qui a été lancée par un savant israélien, et il a demandé des subsides au gouvernement israélien, et il a obtenu qu'on fasse flotter, c'est tellement facile là-bas, des derricks sur l'endroit de sur la Pégomore. Et là, avec cette théorie du pétrole qui doit certainement se trouver en dessous du pétrole biblique, ils ont trouvé du pétrole, une réserve pour 15 années de pétrole. Alors tant qu'il y a du pétrole sous la mer Morte, eh bien les Israéliens ne s'en servent pas, c'est un fameux réservoir naturel, et quand le pétrole arabe des environs devient trop cher, eh bien ils ont encore une réserve pour 15 ans. Voilà une lecture un peu matérialiste de ce passage.
Ben, elle est matérialiste, elle est un petit peu fantaisiste aussi, il y en a deux. Hein? Vous voyez, Werner Keller est un concordiste. Et la Bible arrachée aux âmes. C'est-à-dire, il voudrait essayer de vérifier le texte de la Bible, hein, en faisant concorder avec des réalités, soit géologiques, soit anthropologiques, soit archéologiques, etc. C'est amusant, mais c'est de la mi-science. Alors, les scientifiques, quand ils voient ça, ils sautent au...
Ils sourient comme Sarah.
Ils sourient comme Sarah, oui. C'est-à-dire, ils disent, bah oui, il essaie de faire de la science, et il essaie de faire tout concorder. Il vous dira, par exemple, que l'Arche d'Alliance, qui était du bois de cèdre sec, et du bois d'acacia, pardon, hein, sec, et qui était recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de plaques d'or, avec sur les deux côtés deux anges, enfin deux figures, qui ressemblaient à des animaux, ailés. Et voilà, et quand on touche l'Arche d'Alliance, ben, on est foudroyé. C'est le système de la bouteille de l'aide. Là, les deux anges, les deux figurines à droite et à gauche qui accumulent l'électricité.
Alors, attention, parce qu'il y a un physicien.
Donc vous les touchez, oui, mais je dis ce que Werner Keller dit.
Oui, oui.
Et que, voilà, ça fonctionne comme une bouteille de light, et ils sont foudroyés par l'électricité accumulée dans ces deux statues.
Pour le plus, ils étaient cardiaques, je suis démarché.
Pardon ?
Pour le gaudisme. Pour le plus, ils étaient cardiaques, je suis démarché.
Ben oui, mais vous voyez, ça c'est exactement le concordisme, c'est ou bien vouloir, comment dirais-je,
mais sans
vérifier le passage de la mer Rouge par un phénomène tout à fait naturel. Tout ça est possible, mais c'est pas de ça que la Bible parle. Alors, ce type de vérification que vous retrouvez très souvent à travers les âges, c'est un souci qui peut être louable. C'est de faire concorder, c'est pour ça qu'on parle de concordisme, de faire concorder des choses que l'on trouve à un certain moment de la science par rapport à une interprétation assez littérale de la Bible.
D'autant plus qu'il dit aussi qu'à cause du canal de Suez, on ne peut plus justement vérifier tout le système des eaux.
Justement. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous voyez, la Bible est d'un tout autre monde. La Bible est du monde de la poésie. Et la poésie est tout à fait... C'est quelque chose qui crée une relation. La science veut dire, veut essayer d'exprimer ce que sont les phénomènes de la manière dont ils sont observables. Et donc, ils doivent constamment utiliser une théorie, puis une nouvelle théorie, et puis une nouvelle théorie. Ça, c'est le chemin de la science. Ici, le texte veut nouer une relation entre Dieu et nous. C'est un tout autre objet. Mais nous restons toujours prisonniers d'une manière de voir les choses extérieurement. C'est-à-dire de vouloir vérifier mathématiquement. Vous avez exactement le même type de réflexion dans un livre comme celui de Jacques Dehring, le manuscrit du Saint-Sépulcre. C'est exactement le même type. Jacques Dehring est un électrotechnicien et qui voudrait avoir une preuve matérielle de la résurrection de Jésus. Alors, il mêle justement le Saint-Sépulcre, ce qui pourrait rester comme trace éventuellement d'une sorte de déflagration lorsque le corps de Jésus est ressuscité, hein, et vous retrouvez cela. Et alors, il mêle à cela, évidemment, le Saint-Suaire de Turin. Hein, vous voyez, il essaie de mettre des choses ensemble. C'est intéressant, vous savez, ça se lit comme un roman policier, c'est le fait, un peu comme ça, dans toute la première partie, la deuxième est un peu plus faible. Hein, mais c'est fort intéressant comme type de réflexion, parce que... Hein, il dit, ben voilà, si le fait qu'on ne peut pas vérifier, ou la date que l'on a vérifiée au carbone 14 du Saint-Suaire de Turin, c'est pas du tout le 1er siècle. C'est probablement beaucoup plus tard, vraisemblablement 11e, 2e siècle. Alors, c'est que le processus qui est mesurable par le carbone 14, ce processus s'est produit d'une façon beaucoup plus forte par la une sorte de déflagration intérieure, d'implosion, si vous voulez, du corps de Jésus ressuscitant. Et alors, c'est mélanger la science avec la fantasmagorie. Mais c'est intéressant comme type de réflexion.
Mais ça rassure certains.
Oui.
L'homme nouveau marche à fond là-dedans. Parce que je suis abonné, j'ai lu un article tout récent.
Ah, tout à fait, oui. Parce que c'est de la pseudo-science.
Par exemple, pas pour la résurrection, mais par exemple, le passage de la mer rouge. De la même façon qu'on dit que les rêves sont construits avec des morceaux de la réalité, est-ce qu'on va dire que la Bible est construite avec des morceaux de choses qui se sont passées et qui ont été interprétées, qui ont été matériaux de...
Oui, mais n'essayons pas trop vite ce chemin-là. N'essayons pas trop vite parce que nous n'en savons rien.
Mais on peut dire, a priori, peut-être que la Bible s'appuie sur des récits de l'Antiquité, oui, d'une mémoire collective, de cataclysmes qui ont eu lieu.
Ça, tout à fait. Et qu'il y ait eu une faille qui aille depuis le sud de la Turquie jusqu'au Tanganyika, c'est absolument sûr. Hein? Mais quand vous voyez, quand vous lisez quelqu'un qui est beaucoup plus scientifique que Werner Keller, hein, quelqu'un comme le professeur Capard, c'est tout à fait différent. Vous voyez très bien, il dit des théories, il donne des hypothèses, etc. Donc, qui est une faille, tout à fait sûr, qui est peut-être la mémoire d'une faille, qui est peut-être la mémoire d'une déflagration qui a produit la mère mort, c'est possible. C'est possible. Et donc, qu'on ait travaillé avec une mémoire ancienne, ça c'est probable.
Un inconscient collectif.
Un inconscient collectif, oui. Hein? Le déluge, c'est la même chose. Il y a des fondements. Mais seulement, vous voyez, on dévie lorsque on veut essayer d'expliquer par là. C'est ça le problème. C'est que ça, ce sont des éléments qui ont construit une mémoire.
Mais il y a peut-être déjà en dessous, hein, plus important encore, le désir de sauver la foi d'une idéologie. Il faut quand même que la foi s'appuie sur des faits. Hein, et pour un hébreu, il n'y a pas de symboles sans un fait sous-jacent. Sinon, oui, il pousse ça trop loin. Tu as expliqué le premier jour avec l'histoire de l'histoire de l'histoire, etc.
Oui.
Mais l'intuition est juste. Il faut se raccrocher à des
faits. Il y a une intuition juste, seulement là où c'est faux, c'est qu'on va vous donner une explication d'eux. Et alors, on va vous réduire ce qui est dans la Bible à ces éléments de mémoire collective qui surgissent dans le texte. Le texte est un récit. Et il faut le prendre comme un récit. Et un récit est destiné à nouer une relation. Ce n'est pas d'abord de nous informer, c'est de nouer une relation. Et ça, c'est essentiel. Mais voyez, on l'a pris, ça, le concordisme est né évidemment à la fin du siècle passé et au début de ce siècle, à l'époque du modernisme,
hein,
où on disait, vous savez, hein, la science détruit la foi. La foi n'est basée sur rien. Mais si, la foi est basée sur une histoire. Mais on vous la raconte, cette histoire, dans le but de nouer avec vous une relation. Et de vous faire réfléchir. Comme nous avons réfléchi, eh bien, nous vous invitons à réfléchir à notre suite. Et il faut pas faire dévier le but du texte. Oui, vous vouliez poser des questions. Il y avait une question tout à fait dans le fond. Là, oui, vous vouliez poser une question.
Non, mais je disais dans la fois qu'il ne manque pas question d'homosexualité, il manque que nous les connaissions.
Pardon ? Oui.
Oui, parce que les lecteurs ont pu... Il a du sens, ce mot-là.
Connaître dans la Bible, ça veut toujours avoir une relation sexuelle.
Le lecteur
a
voulu avoir un sens.
Tout à fait.
Oui, c'est certain.
Ah oui, tout à fait. Toute la tradition juive le prend toujours dans ce sens-là, d'ailleurs. C'est pour ça que la tradition juive est absolument adversaire de l'homosexualité. Elle dit, Dieu créa l'homme à son image, homme-femme. Pardon ?
Celui qui écrit ça, il n'y a personne qui sait dans quel sens il a pris.
C'est un hébreu.
Mais si moi je dis, moi je le crois ici, connaître quelqu'un.
Ah oui, mais ça c'est un sens moderne.
Il y a quand même un fond de vérité, il y a quand même beaucoup de juifs qui disent que ce passage-là, ce n'est pas une condamnation de l'homosexualité. Josie Eisenberg ne cesse de le dire, chaque fois qu'il en a l'occasion, le dimanche à...
Oui, mais ce n'est pas la tradition juive. C'est Josie Eisenberg qui est un peu, qui fait une concession, il a de très grands adversaires, qui fait une concession à l'esprit moderne ou à la psychologie moderne. Hein? Et ça, il y en a beaucoup qui lui en veulent, beaucoup de lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revient si souvent là-dessus.
C'est ce qui passe sur France 2.
Hein? Oui, oui. Mais c'est vraiment comme cela que c'est interprété dans la tradition. Et connaître a toujours d'abord cet aspect de sexualité. L'homme connu Ève sa femme. Et ils eurent un enfant. C'est dans le même texte un peu avant. Et c'est le sens premier de connaître. Et l'autre sens de connaître est venu par la suite. Pour nous, nous ne connaissons plus que celui-ci, que le sens de connaître, faire la connaissance de quelqu'un. Et oui, alors il y en a qui minimisent évidemment la portée de ce texte, il y en a qui la maximalisent. Ça, vous avez la même chose dans notre société moderne, hein, où l'on va expliquer par la réalité, par la psychologie, en disant, bah oui, c'est une psychologie différente. Voilà.
Est-ce que cet épisode de ce homme, au-delà du péché de l'homosexualité, n'illustre pas un groupe humain qui a comme loi, le mot est dans le texte, tous les mêmes, et qui refuse, c'est l'illustration, l'étranger, et qui lui donne du faire du mal. C'est donc l'illustration du péché du système totalitaire.
Tout à fait.
Donc, à ce titre-là, ça n'est pas...
Oui, mais c'est exprimé dans ce sens-là.
Oui, mais...
Mais c'est vrai, ça reprend Babel.
Ça reprend Babel.
Tout à fait. Tout à fait. Oui, bien l'exclusion de l'étranger.
Oui. C'est aussi dans le texte.
C'est aussi dans le texte. Pas tout à fait. Mais il y a plusieurs virtualités du texte.
Oui. Ou bien alors ça s'immite ou il exclut parce qu'ils avaient envisagé de le mettre dans le coup.
Oui.
Ah oui. Mais ça fait partie encore du système totalitaire.
Du système totalitaire, c'est vouloir que l'autre soit semblable à nous. Mais de toute façon, c'est toujours du même au même. Hein? D'une manière comme de l'autre. C'est vrai que c'est exprimé. Ça déborde le problème de l'homosexualité, mais c'est proposé comme cela. Puisqu'il y a l'histoire des filles qu'il veut bien donner. Parce que ça, c'est plus normal, disons.
Mais toutes les concessions à condition.
Oui, mais oui. Tout à fait. Tout à fait.
Si maintenant on avait une concession de...
Ah oui, on... Arrivé au seuil du chapitre 22.
Ah.
Parce que là, ce sera un gros morceau pour demain. Et que ce que nous avons à voir est jusqu'à un certain point, une répétition. Bon, vous aviez eu d'abord la descendance d'Abraham. Hein? On avait parlé de la descendance d'Abraham avec la naissance probable d'un fils. Vous aviez l'apparition de Mambré et puis l'intercession d'Abraham. Et vous voyez bien que dans ces textes, on met Abraham et Lot en parallèle. Abraham comme le modèle du croyant, le père des croyants, et Lot un peu en contrepoint, un peu comme celui qui suit. Il imite en quelque sorte Abraham, mais de loin. Et nous voyons que Lot a certaines limites que Abraham n'a pas. Le Seigneur ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, Et Abraham retourna chez lui, avons-nous lu, nous lu à la fin du chapitre 18e. Puis alors, on reprend avec l'histoire de Sodome, la destruction de Sodome. Et ça se termine par « Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham. » On ne dit pas qu'il s'est souvenu de Lot. Il s'est souvenu d'Abraham qui avait intercédé pour Lot. Lot est celui en faveur duquel on intercède. Il n'est pas l'intercesseur. Et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe dans le renversement des villes où habitait Lot. Et maintenant, puisqu'on a parlé de Lot, on va voir aussi, parce que vous voyez, Lot n'a plus sa femme. Il a encore ses deux filles vierges, mais les gendres, ils ont disparu dans la catastrophe de Sodome. Catastrophe par le feu, qui est évidemment parallèle à la catastrophe par l'eau du déluge. On voit bien, même s'il n'y en a pas, hein, l'étendue, puisque le déluge c'était toute la terre, censément, tandis que ici, on n'est vraiment qu'une toute petite région, puisque Dieu avait juré qu'il ne détruirait plus la terre. Lot monta de Tsoar, où il s'était réfugié, hein, et s'établit dans la montagne, avec ses deux filles. Il va là où, hein, dans la région de la montagne qui était restée dans le choix qu'il avait fait, Abraham. Car il n'osa pas rester à Tsoar. Il s'installa dans une grotte. Il redevient troglodyte. S'installa dans une grotte, lui et ses deux filles. Attention au thème de la grotte précédente. La grotte est aussi quelque chose d'important qui va se transmettre dans l'iconographie byzantine, notamment, où vous avez la grotte dans laquelle Jésus naît et la grotte d'où Jésus sort à la résurrection. Hein? La grotte, c'est une sorte d'intériorité cachée. La grotte, c'est quelque chose de loin, c'est quelque chose de secret. Ce qui se passe dans une grotte, hein, c'est un secret. Il s'installa dans une grotte, lui et ses deux filles. Alors, solution humaine. Elles restent toutes seules, les deux pauvres. Hein? Alors, l'aînée dit à la cadette, notre père est âgé, il n'y a pas d'homme dans le pays. Hein, ils sont censément tous morts. Il n'y a pas d'homme dans le pays.
Qu'est-ce qui va se passer?
Pour s'unir à nous à la manière de tout le monde.
C'est quoi la manière de tout le monde?
Ça, pour peut-être faire un petit dessin. Viens. Attention, et c'est l'histoire de Noé qui revient. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui.
Oh mon Dieu.
Oh, voilà l'inceste.
C'est pas beaucoup mieux qu'à Sodome.
Ah non, hein. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. Nous susciterons une descendance. Elles firent boire cette nuit-là du vin à leur père. Et l'aîné vint s'étendre auprès de son père, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Le lendemain, attention, c'est pas fini, l'aîné dit à la cadette, hier j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui. Ainsi, de notre père, nous susciterons une descendance. Nous susciterons une descendance. Et ça revient deux fois. Et vous voyez que le récit est exactement similaire. L'un est la copie de l'autre. L'aîné, puis la cadette. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla s'étendre auprès de lui, qui n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Oui, lui n'y est pour rien, en quelque sorte. Hein? C'est vraiment une entreprise des deux filles.
Quel âge avait l'autre alors?
Je n'ai pas dit ça.
Il était âgé.
Pardon?
Il était âgé.
Ah, il était âgé, oui, oui, mais c'est tout. Il était déjà âgé. Notre père est âgé, mais on ne dit pas qu'il
il était content.
Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Alors, vous voyez, l'aîné donna naissance à un fils et elle l'appela Moab. Jeu de mots sur Moab. Moab, qui est cousin d'Israël, puisque c'est juste en face. Les Moabites habitent juste en face. Et on donne comme étymologie Méhav de son père. Méhav du père. Hein, c'est un enfant qui vient du père. On l'appelle Moab. C'est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. Bon. La cadette aussi donna naissance à un fils et elle l'appela Ben-Ami, qui peut signifier enfant d'un parent, de mon parent, Ami, c'est mon peuple ou mon parent, de ma parenté. Donc c'est de nouveau une étymologie populaire pour faire descendre les Moabites et les Ammonites, qui sont des voisins d'Israël, Amman, la ville capitale des Ammonites, qui est maintenant la capitale de Jordanie. Et donc la cadette aussi donna naissance à un fils, elle l'appela Ben-Ami, c'est l'ancêtre des Bené Ammon, des fils d'Ammon d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez, c'est de nouveau un récit étiologique. C'est-à-dire, d'où viennent les Moabites et les Ammonites? Pourquoi ont-ils un air de parenté? Ils viennent du même père. Mais ils sont les enfants de l'inceste. Vous voyez que tout n'est pas exemplaire. Hein? On ne dit pas qu'il faut faire comme ça.
Attention, parce qu'il y a une grotte dans le jardin.
Abraham partit de là, pour le pays du Néguev. Ah, on le retrouve, le Néguev. Et demeura entre Kadesh et Chour. On a déjà vu la source de Chour, là, hein, où était allé Agar, vous vous rappelez, une source qui était devenue un puits par après. Il vint séjourner à Guérar. Guérar, donc, c'est un territoire des Cananéens, cette fois-ci. Il était allé en Égypte. Maintenant, il va séjourner à Guérar et il va refaire le même stratagème. Pourquoi il nous répète ce texte, hein, qui n'était pas tout à fait édifiant?